France Inter.
Laurence Thomas, bonjour Laurence.
Bonjour Ali, bonjour à tous. Rafah, toujours suspendu à une opération israélienne terrestre, et ses premiers témoignages de réservistes revenus de l'enclave palestinienne, témoignages d'un militaire israélien qui décrit les horreurs vues à Gaza. Les verdicts de printemps des agences de notation Moody's et Fitch sur la dette souveraine française. Ces notes sont attendues ce soir. L'aggravation des finances publiques laisse prévoir des commentaires peu flatteurs. L'augmentation des violences chez les jeunes, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, favorable à l'instauration d'un couvre-feu qui touche les mineurs. Et puis la folie Taylor Swift, où quand les fans de la chanteuse font du pub londonien Black Dog leur nouveau lieu de pèlerinage.
À suivre sur France Inter ce matin, le discours de la Sorbonne du président de la République hier était largement économique. Analyse dans le débat éco à 8h moins le quart avec Dominique Saut et Thomas Porcher. Et puis à 8h20, on voyage avec un ingénieux Hidalgo, un chevalier idéaliste monument de la littérature mondiale. William Marx, professeur au Collège de France, est notre guide pour un été avec Don Quichotte, son livre à paraître la semaine prochaine.
France Inter.
Un témoignage rare dans ce journal ce matin, celui d'un réserviste israélien de retour du territoire palestinien. Rappelons que depuis le 7 octobre, selon l'armée israélienne, plus de 600 soldats de Tsahal ont été tués, dont près de 260 lors de l'offensive terrestre dans la bande de Gaza. Des soldats déterminés à démanteler le Hamas et qui, de retour, commencent à témoigner de ce qu'ils ont vu dans l'enclave palestinienne. Une parole recueillie par nos envoyés spéciaux Omar Waman et Eric Audra.
Daniel, la trentaine, a passé un mois dans la bande de Gaza. Ce qui l'a frappé, c'est l'ampleur des destructions.
Le paysage est détruit. Il n'y a pas une fenêtre qui tient. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de maisons qui sont totalement détruites. Une espèce de chaos.
Un chaos généralisé et de nombreuses victimes des frappes de l'armée israélienne.
J'ai vu en effet des cadavres, visiblement des gens qui avaient été tués lors de bombardements, qui étaient dans les décombres. Personne n'est préparé à quelque chose d'une telle ampleur en termes de destruction, en termes de cadavres dans la bande de Gaza.
Ce franco-israélien a également été témoin de la souffrance des habitants de l'enclave palestinienne.
En effet, la population civile palestinienne qu'on voit, elle est dans un état de désespoir assez avancé. Moi, personnellement, je ne suis pas de ceux qui sont contre l'entrée d'aide humanitaire. Il faut, au contraire, faire entrer l'aide humanitaire en masse. Et je pense même que cette aide humanitaire, elle est une condition pour que Israël continue son opération dans la bande de Gaza.
Après cette mission, Daniel avoue qu'il a besoin, comme des milliers de soldats de l'État hébreu, d'une assistance psychologique.
Oui, c'est sûr que ça nous travaille. Je pense qu'il y a des soldats qui en ont pour l'instant plus besoin que moi. Quand la situation se calmera un petit peu, on s'en occupera aussi.
Et ce que souhaite par-dessus tout ce soldat qui se dit de gauche, c'est que les responsables du fiasco sécuritaire du 7 octobre rendent des comptes.
Omar Waman et Eric Audra en Israël pour France Inter. Dans la bande de Gaza, où 2 400 000 habitants du territoire assiégé sont confrontés à un désastre humanitaire, les États-Unis annoncent avoir commencé la construction d'une jetée, ce qui permettra aux navires militaires ou civils de déposer leur cargaison d'aide humanitaire. Annonce de Washington, alors qu'aux États-Unis, le mouvement de protestation contre la guerre à Gaza se généralise. De Los Angeles à Atlanta, d'Austin à Boston, le mouvement d'étudiants américains pro-palestiniens grossit de rancœur. Dans le siège des actions menées dans des universités américaines, des dizaines d'étudiants de Sciences Po Paris ont décidé la nuit dernière d'occuper de nouveau un de leurs bâtiments en soutien aux Gazaouis.
C'est l'heure du bulletin de notes en économie pour la France.
Le coup près va tomber ce soir. C'est aujourd'hui donc que Fitch et Moody's, deux des principales agences de notation, vont rendre leur verdict sur la dette souveraine française. Les dernières données n'incitent pas à l'optimisme. 3 000 milliards d'euros de dette. Autant dire que les notes et les commentaires pourraient être rudes. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Alors expliquez-nous tout d'abord comment ces notes sont établies.
Alors il y a bien sûr tous les chiffres classiques d'une analyse financière, déficit, taux d'endettement, croissance, PIB, rapport entre charges d'intérêt et excédent budgétaire. Toutes les courbes sont scrutées, analysées, comparées. Le cadre institutionnel est aussi examiné de près. La capacité d'un régime à mener à bien une politique économique, loin des promesses de campagne. Mais il y a aussi un côté plus humain, pourrait-on dire, avec des rencontres entre agences de notation et dirigeants. Bruno Le Maire et les équipes de Bercy ont ainsi reçu ces dernières semaines les représentants des agences américaines pour les convaincre de l'efficacité des réformes mises en place pour redresser les comptes de la France.
Et que doit-on penser, Agnès, des agences, des notations de ces agences, sont-elles exemptes de tout reproche?
Non, et d'ailleurs les critiques sont nombreuses depuis 2008 et la crise des subprimes qu'elles n'ont pas vu venir. Autre question, si elles contrôlent les finances des entreprises et des pays, par qui elles sont-elles contrôlées? Par ailleurs, leurs analyses ne sont pas toujours les mêmes. Fitch a récemment dégradé la note de la France quand Standard & Poor's a maintenu son double A. Et puis le monde est confronté depuis la crise Covid à une multiplication inattendue de risques émergents. Aléas climatiques, cyberattaques, crypto-monnaies, rupture brutale de chaînes d'approvisionnement, crise géopolitique. Des risques difficiles à anticiper et susceptibles d'avoir un lourd impact financier.
Agnès Soubiran, pour le ministre de l'Intérieur, les couvre-feux pour mineurs décrétés par certains maires sont une bonne idée. À Béziers, Nice ou encore au Penn-Mirabeau, je les soutiens et les préfets les soutiendront, réagit Gérald Darmanin, qui lui-même a ordonné un tel couvre-feu à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe contre la délinquance. Et il n'a pas mâché ses mots hier soir chez nos confrères de France 3 Occitanie.
D'abord, je voudrais dire qu'il n'est pas normal que des enfants, des adolescents, des mineurs soient dans la rue à minuit, 1h, 2h du matin. Ils doivent être chez eux, ils doivent dormir et ils doivent aller le lendemain à l'école. Donc d'abord, lorsqu'il y a ce genre de choses, c'était le cas en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre où je me suis rendu, ça peut être le cas dans d'autres parties du territoire national, je suis favorable au couvre-feu qui touche les mineurs. Les mineurs, ça doit être chez eux, chez leurs parents. Et les maires qui ont la compétence pour prendre des arrêtés, en effet, comme l'État, pour empêcher ces mineurs d'être dehors, notamment les moins de 13 ans, je les soutiens. Je les soutiens et les préfets de la République les soutiendront. Il faut évidemment que le tribunal administratif, s'il est saisi, puisse voir qu'il n'y ait pas d'excès de pouvoir. Mais les maires qui le font sont des gens tout à fait raisonnables. J'ai entendu ce que disait le maire de Béziers. Moi, je veux dire que je soutiens ces initiatives, même si évidemment, ce n'est pas à l'État de se substituer à tous les territoires et à toutes les communes.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, chez nos confrères de France 3 Occitanie. Clap de fin de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Place maintenant au débat parlementaire, puisque le projet de loi fin de vie est désormais entre les mains des députés. À l'occasion de la 10e et dernière séance de la Convention qui s'achèvera demain, Emmanuel Macron va rencontrer ce soir les 184 citoyens tirés au sort qui avaient planché sur le sujet et l'occasion de conclure cette expérience de démocratie citoyenne. Témoignage de Martial Breton, l'un des tirés au sort. Il est au micro d'Alice Cachaner.
Dans les membres, on est pas mal à se dire que c'est la vraie fin. Moi, je trouve que la voix de la Convention a été entendue, ou en tout cas, le projet de loi suit, on va dire, la même philosophie, c'est-à-dire les deux piliers, la question des soins palliatifs et la question de l'aide à mourir ou aide active à mourir. Nous, on invite évidemment les parlementaires à avoir la même qualité des débats que ce qu'on a pu voir dans la Convention. C'est possible, hein, on peut débattre de sujets aussi complexes et intimes avec respect, bienveillance et écoute. Ce qu'on attend maintenant, c'est que ça ne prenne pas trop de temps dans le débat parlementaire. Il n'y a pas besoin que ça prenne 1 ou 2 ans. Et il faut aussi le mettre en considération des personnes qui aujourd'hui ont besoin de cette loi, qui sont dans des situations de fin de vie. Et c'est pour ça que chaque mois, chaque année supplémentaire, c'est aussi un manque de considération pour ces personnes.
Restera pas en France. Emmanuel Macron va proposer à Joe Biden, le président américain, de rester davantage en France après les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement en Normandie. L'Élysée espère sa présence les 7 et 8 juin, veille de l'élection européenne. Information du Parisien confirmée par le service politique de France Inter. Le format de cette visite n'est pas encore défini. Dans tous les cas, après sa venue à Omaha Beach, le président américain est attendu en Italie. Ce sera pour le sommet du G7 la semaine suivante, 13-15 juin.
Il est 7h08 sur France Inter. Les cliniques privées promettent un bras de fer avec le gouvernement.
La FHP, la Fédération de l'hospitalisation privée, annonce une grève totale à partir du 3 juin et jusqu'au 5. Grève renouvelable. Consciente des contraintes budgétaires, elles veulent non pas plus d'argent, mais une meilleure répartition de l'enveloppe entre public et privé. L'exécutif a choisi d'augmenter que très légèrement seulement les prix payés pour les interventions réalisées dans les cliniques, quand dans le même temps, les tarifs vont augmenter de plus 4% dans le secteur public. Par exemple, les tarifs d'une appendicite ou d'une prothèse de hanche sont fixés par l'État 30% moins cher qu'à l'hôpital public. Autrement dit, explique le président de la FHP, plus le privé travaille, plus il fait faire des économies à la sécurité sociale. Le mouvement prévoit d'être très suivi et il est soutenu, Victor Dolande, par 5 des 6 syndicats de médecins libéraux.
La situation est inédite. Jamais le privé n'avait prévu une telle grève. À partir du 15 mai, les chirurgiens des cliniques privées vont informer les patients. Les opérations prévues la semaine du 3 juin seront reportées et les services d'urgence seront également fermés. Lamine Garbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée, veut montrer au gouvernement que le secteur privé est essentiel seuls dans le système de soins.
55% de la chirurgie est réalisée dans le privé, 40% de la cancérologie également. On prend en charge 9 millions de patients. Donc si on doit encore aujourd'hui expliquer notre rôle fondamental en tant que mission de service public, j'en suis désolé. Sur le terrain, nous le savons tous, et la complémentarité se passe bien. Je ne peux pas accepter qu'il y ait cette dichotomie de traitement où c'est tout pour le public et rien pour le privé.
Les médecins libéraux seront également en grève car ils travaillent aussi dans ces cliniques privées. Ils veulent marquer le coup, à l'image de Philippe Cuc, coprésident du syndicat de médecins spécialistes Avenir Spé
Le
Bloc.
Le secteur libéral a fait la preuve de son efficacité. Et donc là aussi, ce n'est pas une compétition entre public et privé, c'est au contraire une synergie. Mais aujourd'hui, il y a trop de contraintes, trop de différences de tarifs pour le secteur libéral et donc nous ne pouvons pas continuer comme ça.
Le secteur privé réclame une augmentation de 500 millions d'euros pour l'année 2024, mais pour le moment, le gouvernement n'est pas prêt de céder.
Et Victor Dolande, peut-être si vous aimez le dernier album de Taylor Swift, streamé d'ailleurs plus d'un milliard de fois, avez-vous remarqué que la chanteuse évoque un pub londonien du nom de Black Dog ? Dans ce titre du même nom, Taylor Swift surveille les déplacements de son ex grâce à la géolocalisation de son téléphone. Il n'en fallait pas plus, les fans pensent avoir découvert le pub dont elle parle. Il s'agirait, Emeline Vin, d'un petit établissement du sud-ouest londonien qui, évidemment, affiche complet tous les jours. How you don't miss
me in the black dog. Depuis la sortie de The Black Dog, Simran voulait à tout prix mettre l'image d'un lieu sur les paroles.
Elle parle de son ex. Elle le voit sur son téléphone se rendre dans ce pub avec une autre et elle lui dit « Je pensais que je te manquais. J'espère que tu vas passer un très mauvais moment dans ce bar. J'ai été obsédée par le fait de trouver cet endroit et c'est à côté des lieux où je traîne d'habitude. »
Au moins 14 pubs britanniques s'appellent Black Dog, mais pour les Swifties, c'est sûr, il s'agit de celui-ci. John, américain qui vient régulièrement à Londres, n'en revient pas.
Le manager de l'hôtel nous a prévu à l'avance que cette année, vous aurez du mal à réserver dans mon pub Black Dog parce que tout d'un coup, il y a du monde. À chaque fois que Taylor Swift touche à quelque chose, cette chose devient dorée. Elle est magique.
Sur le menu, les serveurs proposent un burger Swift et offrent des bières aux admirateurs. Lily Bottomley, responsable des événements.
Une heure après la sortie de l'album, les gens ont commencé à arriver. Nos ventes ont augmenté. Notre page Instagram a 5 fois plus d'abonnés. On va bientôt sortir des produits dérivés. Ce n'est que de l'amour.
Certains habitués s'agacent de voir leur taverne prise d'assaut. Les fans, eux, espèrent que leur icône passera par le Black Dog lors des dates londoniennes de sa tournée en juin. Londres, Emeline Vin, RFI pour France Inter.
Et puis Aya Nakamura, reine des flammes, la chanteuse 3 fois récompensée hier soir au trophée du rap, dont artiste féminine de l'année, album nouvelle pop et rayonnement international chez les hommes. C'est Gazo qui, comme l'an dernier, était sacré artiste masculin de l'année.
C'était le journal de Laurence Thomas. À suivre dans la prochaine demi-heure, des militants d'ultra-droite de plus en plus décomplexés sur les réseaux sociaux. Ce sera le Zoom.